L'une de mes grandes joies dans mon ministère ici à La Chaux-de-Fonds, c'est le Conseil chrétien, le comité du Conseil chrétien. Alors le Conseil chrétien à La Chaux-de-Fonds, il rassemble dans un même groupe qui se réunit de temps en temps pour prier, pour discerner, pour réfléchir ensemble, les catholiques chrétiens, les catholiques romains, les réformés, l'Église du Réveil, l'Armée du Salut et les Mennonites. Tout ça, parfois, nous nous réunissons pour méditer ensemble. Et il y a quelque temps, nous avons eu cette joie de méditer grâce à l'expérience de Pierre Hamé, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Pierre Hamé, pasteur réformé, racontait cette anecdote qui m'a beaucoup touché. Quand il était jeune, il avait une partie de sa famille qui était de protestants sagnards et une autre partie qui était catholique du canton de Fribourg. Et il trouvait qu'il y avait une différence pas anodine entre ce qu'il appelait un certain quiétisme protestant, qui était pour lui l'idée que si vous lisiez un petit peu votre Bible, alliez de temps en temps à l'église, vous étiez quelqu'un de bien, vous priez un peu de temps en temps, point trop la peine de se soucier pour le salut, puisqu'il y avait la grâce. Cela apportait une certaine paix et un certain quiétisme. À l'inverse, quand il allait en vacances chez ses cousins catholiques, il était à genoux tous les soirs en prière et ça semblait bien plus de l'ordre du combat, cette histoire de salut, parce qu'il fallait vraiment prier pour que Dieu soit là, pour que vraiment nous puissions être sauvés. Alors c'est intéressant de relever cette histoire pour montrer peut-être ce quiétisme qui habite nos églises, cette insouciance qui fait notre caractère. Cette insouciance, elle a été mise à mal cette semaine, parce que j'ai suivi avec plusieurs de la paroisse, nous étions une dizaine de la paroisse de La Chaux-de-Fonds, à suivre une formation avec le pasteur Gilles Boucaumont qui venait ici à Neuchâtel pour donner une formation sur la libération. Alors Gilles Boucaumont, c'est un personnage dont on entend beaucoup parler en ce moment dans les milieux réformés, parce que c'est un pasteur réformé de la paroisse du Marais à Paris qui a connu une expérience assez inédite pour le monde réformé. En 10 ans, il est passé de 12 personnes au culte. Il dit lui-même qu'à son culte d'installation, ils étaient 16, dont 6 de sa famille, à plus de 500 personnes au culte, de personnes régulières, donc ça veut dire plusieurs cultes par dimanche. Et peut-être la seule chose différente qu'il faisait, c'est prendre au sérieux la question du combat spirituel, du discernement, ce que nous avons peut-être entendu dans l'apôtre de Paul qui disait « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons, mais c'est contre des puissances spirituelles, c'est contre des dominations, des principautés, c'est contre un certain monde de ténèbres qui nous est invisible et pourtant qui est là. » Et peut-être qu'à partir du moment qu'on met le nom sur quelque chose qui nous est invisible, alors on se rend compte d'un problème, alors on peut enlever des verrous qui nous empêchent de croître, qui nous empêchent de grandir. Donc tout son enseignement, finalement, était baigné de l'autorité de son expérience à lui, qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires et qui a vu beaucoup de libération et l'Évangile un petit peu proclamé comme ça en masse dans son Église qui aujourd'hui tout entière porte ce ministère de la libération en quelque sorte. Alors, forcément, comme nous sommes habités par un certain quiétisme protestant, par une certaine tranquillité qui nous habite, qu'on nous a enseigné, qui était là depuis le début, qui fait notre identité protestante, au moment où nous entendons cela, moi, dans ma tête, j'ai entendu, mais cet homme nous annonce plutôt un évangile de combat. Et cet évangile de combat, il est bien loin de la paix dans laquelle je me suis habitué, j'ai pris mon plaisir. Mardi soir, je rentrais justement en me disant « Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans cet évangile de combat ? Est-ce que je ne préfère pas la paix ?» La paix que je connais du monde réformé. Et en allumant la radio, j'ai entendu cette histoire d'un prêtre assassiné en France. Et là, je me suis dit, peut-être cette paix est une fausse certitude. Peut-être cette paix est une fuite parce que il y a réellement un combat que peut-être on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder, mais qui est là, qui est présenté devant nous. Et on entend bien que dans cet assassinat d'un prêtre, il y a un énorme piège qui nous est tendu. Savoir si on va se liguer, musulmans contre chrétiens, pour se faire la guerre, retourner dans la guerre de religion, ce qui est peut-être le plus éloigné de la volonté de Dieu, ou savoir si, à l'inverse, on va ne rien faire, et petit à petit, peut-être, diminuer, et disparaître. C'est arrivé dans certaines régions que des églises entières disparaissent. Et la clé d'interprétation de cette semaine, de dire que ce combat, il n'est pas contre la chair et le sang, mais ce combat, il se passe au niveau spirituel, m'a beaucoup éclairé. Parce qu'en disant que ce combat se passe au niveau spirituel, d'un seul coup, je peux regarder ce personnage qui me fait peur, ce salafiste extrêmement sévère, qui porte en lui quelque chose de presque agressif et qui m'est très étranger. Je peux voir derrière lui réellement la chair et le sang créés à l'image de Dieu, ce personnage merveilleux appelé à être lui aussi enfant de Dieu. Et ce personnage est mon allié dans un combat qui n'est pas contre lui. Et mon allié dans un combat qui est spirituel, qui est ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Ce qui nous éloigne de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ, qui nous éloigne de la révélation de Dieu. Là, vraiment, est le lieu pour sortir du piège, pour ne pas se battre au niveau de la chair et du sang, mais se battre au niveau spirituel. Se battre au niveau spirituel, c'est un petit peu penser que, de même que le corps a ses maladies et nécessite un médecin, de même que l'âme a ses maladies et nécessite un psychologue, de même l'esprit a ses maladies et nécessite la puissance de Jésus-Christ pour nous libérer. Cette libération qu'on entend, qu'on traverse l'Évangile de bien des façons et que parfois nous avons mis de côté parce qu'elle nous est étrangère, parce qu'elle n'est pas rationnelle, parce qu'elle n'allait pas avec ce quiétisme qui nous habite. J'ai eu cette expérience aussi de parler il y a quelque temps avec une monitrice du catéchisme sur ce premier texte de l'Évangile qui parle de la paix et du glaive, avec Jésus qui dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter le glaive, l'épée, le combat, selon les traductions. » Évidemment, c'est une parole qui me déroute, c'est une parole qui se poursuit d'ailleurs par « Je suis venu séparer le fils du père, la fille de la mère, la belle-fille de la belle-mère. » Et elle disait « Mais comment cela peut être dans la Bible? Moi, je ne comprends pas par rapport à ce qu'on nous enseigne. » Et évidemment, dans notre société chrétienne qui a un grand héritage, qui a gardé beaucoup des excellents fruits de l'Évangile, il y a une certaine paix parmi nous et je ne crois pas que cette parole doit nous dire « séparez-vous de votre père » ou « séparez-vous de votre mère ». Non, bien au contraire, c'est l'amour que l'on veut. Mais cette parole a été vraie autrefois, à des moments où choisir le Christ voulait dire peut-être être rejeté de sa famille, voulait dire être rejeté du monde, voulait dire être loin du monde. Cette parole, elle est encore vécue par d'autres personnes. Je retiens le témoignage de Nabil Qureshi, qui est ce missionnaire d'origine musulmane qui, au moment où il a fait ce choix du christianisme, qui lui a presque été forcé par la volonté de Dieu, tellement il y avait des cadenas contre, alors il a tout perdu. Alors sa famille, qui était une famille profondément aimante, l'a rejeté. Alors il a plus pu voir sa famille. Et au fond, il a fait ce choix parce qu'il a vu dans l'Évangile une parole qui disait que Dieu est amour et qu'il a donné sa vie pour chaque personne. Et que cette parole, elle lui était demandée de la vivre maintenant. Et qu'il ne pouvait pas se défiler devant cette parole. Alors voilà, nous, dans notre quiétisme, nous sommes bien éloignés de ça quand d'autres vivent ça pleinement et savent ce que veut dire, effectivement, cette épée qui vient sur la terre. Et peut-être il est temps de se demander, ce quiétisme, quelle est la part de juste qu'il a en lui, quelle est la part qui est une fuite et qu'il faut éviter. Je crois que la paix qui nous est donnée de vivre, c'est la paix dans l'assurance de Dieu, c'est la paix dans l'Évangile. Ce n'est pas la paix dans ce monde. Dans ce monde, nous sommes appelés à vivre d'un certain combat, un combat pour la vérité, un combat pour l'Évangile, un combat spirituel. Et cette image que donne Paul du chevalier bien armé pour avancer dans ce monde, nous pouvons l'analyser et voir que de bien des façons, elle nous apprend des choses. La première chose, c'est « Ayez la vérité pour ceinture ». Alors, la ceinture, dans le monde hébraïque, c'est les reins. Et la vérité aux reins, c'est en fait le lieu du courage. Que la vérité vous donne du courage parce que vous savez que vous vous battez pour la vérité. Je crois que dans nos églises, nous avons réellement une grande foi, une grande confiance en Dieu. Mais parfois, nous sommes un petit peu déstabilisés sur cette question de la vérité. Parce qu'il est bien dur de dire aujourd'hui qu'est-ce que la vérité, en quoi croyons-nous vraiment? Et nous pressentons bien que si nous sommes affermis dans la vérité, effectivement, ça nous donne du courage pour nous battre. Nous savons que nous sommes dans la vérité. À l'inverse, nous ne sommes pas certains de ce que nous croyons, de ce que c'est juste, de ce qui est bon, de ce qui vient de Dieu. Alors, notre position est plus frêle. Alors, nous ne savons pas comment défendre les choses. Nous manquons de courage, peut-être. Ayez la justice comme une cuirasse. Rendre la justice, c'est ce qui nous protège. Ayez comme des chaussures le zèle pour l'évangile de la paix. C'est intéressant parce qu'au moment où Paul parle de combat, il parle de l'évangile de la paix. Et ce n'est pas anodin. C'est bien cet évangile de la paix pour les hommes, de la paix que nous donne Dieu, pas de la fausse paix qui est une fuite, mais de la paix que nous offre le Père, que nous sommes appelés à vivre. Et c'est ce zèle aux chaussures. Pourquoi les chaussures? Peut-être pour sortir de nos églises, peut-être pour aller vers les autres, peut-être pour aller dans ce monde tel que Paul l'a fait et qui a voyagé. Vraiment, il y a un zèle qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à proclamer cet évangile de la paix. Ayez le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Alors la foi, littéralement, c'est la confiance en Dieu. C'est cette confiance que c'est lui qui a gagné le combat, que c'est lui le plus fort et que si nous sommes armés de cette confiance, nous ne craignons pas les attaques du malin. Cette confiance, ce bouclier de la foi, il est parfois éprouvé, effectivement, dès qu'on rentre dans un monde, on s'aperçoit qu'il y a un combat, on s'aperçoit que ces choix ne sont pas neutres et que parfois, ce combat nous rejoint dans nos vies là où nous ne le voulons pas. Prendre ce bouclier de la foi, c'est se mettre derrière l'assurance, la confiance profonde en Jésus, que c'est lui qui dirige ce monde, que c'est lui qui est la solution de ce monde et que nous n'avons rien à craindre derrière ce bouclier. Enfin, le glaive de la parole de Dieu qui est l'Esprit, ça nous l'entendons. Nous savons que la parole de Jésus est ce glaive qui est capable de couper l'âme et l'esprit, qui est capable d'aller au plus profond de nous, qui est ce qui est pointu, qui est cette vérité qui nous est donnée, qui est parfois extrêmement précise. Et la parole de Dieu, ce ne sont pas les Écritures, mais c'est bien l'Esprit. L'Esprit de Dieu, une parole vivante qui nous est donnée, et c'est bien ça qui attaque, c'est bien ça qui combat. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas tous nos beaux discours, toutes nos belles prédications, ce n'est pas toutes les ruses qu'on pourrait monter, mettre en place, ce n'est pas toute notre réflexion ou notre bibliothèque qui va combattre. Mais c'est bien l'Esprit de Dieu. C'est peut-être quelque chose qu'ont expérimenté cette fameuse église du Marais. À chaque fois qu'il y a quelqu'un devant eux qui a des problèmes, la première question que se posent les gens qui accompagnent cette personne, c'est simplement « Dieu, que veux-tu que je fasse pour elle ?» et demander à la personne « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ce n'est pas nous, avec notre propre science, qui décidons « Alors là, je vais prononcer cette parole, ou je vais dire ça, je vais te souhaiter ça. » Non. C'est Dieu qui donne une parole, et ils ont expérimenté combien de fois que cette parole pouvait être extrêmement précise et faire des miracles. Parce que lorsque c'est l'esprit qui combat, alors c'est ô combien plus efficace que lorsque nous émettons tout notre zèle avec nos propres armes à nous. Ce texte de l'Épître aux Éphésiens, il commence par « Puisez votre espérance, votre force dans la puissance de Dieu. » C'est lui qui combat, ce n'est pas nous. C'est derrière notre confiance en lui, c'est derrière son esprit que nous sommes dans ce monde. C'est là qu'il y a la vraie paix, c'est là qu'il y a le vrai quiétisme que nous sommes appelés à vivre et qui nous rend heureux, plein de joie et plein de paix dans ce monde. J'ai pu avoir quelques semaines de vacances en famille et nous avons visité un château fort assez extraordinaire parce qu'il y avait la partie émergée et la partie immergée, plein d'un château fort presque troglodyte comme ça dans la région d'Angers qui était assez chouette à visiter. Et comme souvent à la sortie, à la petite boutique où on vous propose de vendre les épées en bois et les boucliers de Templiers un petit peu, et puis cette fois-ci avec mon épouse on s'est fait avoir parce qu'il y avait une épée qui s'appelait Lancelot comme le nom de notre fils, et puis notre fils aimait bien jouer avec des épées, alors voilà, on lui a acheté un bouclier, un glaive, ce qui m'a permis de réfléchir à cette question de qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'offrir un bouclier et une épée à son fils, lui apprendre plus jeune, dès jeune comme ça, à être ce petit chevalier. Et il y a un piège, il y a une mauvaise façon de le voir comme il y a une bonne façon de le voir, je le crois. La mauvaise façon de le voir, elle a été enseignée pendant des années, c'est quand on a pensé que prendre le bouclier, prendre l'épée, porter la croix, ça voulait dire concrètement porter la croix des Templiers, aller en Terre Sainte et aller se combattre contre la chair et le sang, aller faire couler du sang, aller tuer des vies pour défendre le tombeau du Christ. Cela, on l'a prêché pendant des années et ça reste, je le crois, quelque part dans notre imaginaire collectif comme un souvenir tourmenté. À la fois, on sait que c'est là la source de bien des souffrances, qui a causé bien des problèmes qu'on nous a souvent reprochés au christianisme. À la fois, effectivement, il y a ce personnage romanesque du Templier qui a fait rêver tous les petits garçons et peut-être toutes les petites filles. En tout cas moi qui m'a fait rêver effectivement un temps en quête d'aventure, bravant tout, donnant tout son courage pour Jésus-Christ. Mais la bonne façon de le voir, je crois, c'est que apprendre effectivement, j'ai eu à cœur de dire à mon fils que oui, la foi, oui, choisir Jésus-Christ dans ce monde, ce n'est pas tout repos. Ce n'est pas quelque chose qui dit « Vis ta belle vie ici, à la Chaux-de-Fonds, il fait bon ». Tu seras épargné de tous les soucis, et si les soucis viennent ailleurs, alors repose-toi à l'abri dans tes montagnes. Nous savons que cela est une fuite, nous savons que cela est faux, nous savons qu'il y a un combat spirituel à mener qui est déjà venu jusqu'à nous, je le crois. Et enseigner que la foi n'est pas quelque chose de passif, mais quelque chose d'actif. Que ce chevalier est quelque chose de l'ordre du symbolique, métaphorique, que le combat se situe évidemment au niveau spirituel et non pas contre la chair et le sang. Mais cela, je crois, est quelque chose d'extrêmement important que nous avons peut-être perdu dans nos églises, qu'il est bon de retrouver. Une certaine fougue chevaleresque, mettre un nom sur notre adversaire, sur notre ennemi spirituel qui éloigne ce monde de la rédemption en Jésus-Christ. C'est là le bon combat, celui que l'Évangile nous appelle à mener. Amen.